un expresso s'il vous plaît? C'est ton podcast familial pour t'accompagner à travers le quotidien dans ton rôle parental. Je m'appelle Annie Normandin, je suis intervenante familiale et j'ai une super de belle collaboration avec Cathy Dubé de Cigogne et Baluchon. C'est un moment juste pour toi, relax, prends-toi une tasse puis viens faire le plein. C'est parti! Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis présentement avec ma belle Cathy Damo, ma collabo. Salut Cathy!
Salut Annie, comment vas-tu?
Hey, ça va? Aujourd'hui, Colin, on va parler des mythes de l'allaitement.
Hey, j'avais tellement hâte pour vrai, là. Ça fait comme 2-3 semaines, je pense, qu'on est à la planification de cet épisode-là. Puis pour vrai, ça va être un épisode bonbon, je pense, vraiment, là.
Ben oui, puis tu sais, on s'en parlait un petit peu tantôt avant de rentrer en onde. On a eu un malin plaisir à faire un live sur les mythes de l'allaitement.
Et qu'on a eu du fun, pour vrai. Puis je sais que notre invitée, elle l'a même écouté, puis elle a vraiment aimé ça. On a eu, là, écoute, on a ri, on a déconné avec nos abonnés. C'était vraiment, vraiment plaisant comme live. On voulait, entre autres... que nos abonnés nous nomment, hein, justement, c'est quoi les mythes les plus répandus qu'ils ont entendus au courant, soit même de leur grossesse par rapport à l'allaitement ou même durant leur allaitement. Donc, on voulait justement sonder nos abonnés, les personnes qui nous suivent pour donner du jus à cet épisode-là aujourd'hui en lien avec les mythes hein, qui concernent l'allaitement.
Oui, vraiment. Puis je pense que ça va être une formule à réexplorer. Hein? On a vraiment eu du plaisir à faire ça. Puis ben les mamans ont tellement bien participé. Moi, j'ai été super impressionnée. La participation des mères, là, ça me rend tout le temps super heureuse là, de voir à quel point ben finalement, on n'est pas là pour rien. Alors, toi, Cathy, des mythes au niveau de l'allaitement?
Ah, ça, c'est clair que j'en ai entendu un puis un autre. Autant dans ma vie de maman, quand j'ai commencé avant même d'avoir moi-même des notions en allaitement, avant hein, d'avoir eu ma formation là, comme accompagnante à la naissance, comme marraine d'allaitement, tout ça, c'est clair que j'en ai entendu. Puis là, présentement, hein, on est dans tous les groupes de mamans. Marie-Ève aussi, je suis certaine qu'elle côtoie plusieurs groupes de mamans, notre invitée, je viens de la nommer, j'ai coupé le punch, mais c'est pas grave, on va vous la présenter dans quelques secondes. Donc, c'est sûr qu'à tous les jours, je vois passer des questions en lien avec l'allaitement et des réponses des autres mamans qui, parfois, hein, nous font un petit peu, nous titillent, comme on dit. Hein? Ça, c'est notre nouveau mot de l'heure. Ça nous titille.
Ouais.
Fait que, aujourd'hui, je pense qu'on va mettre les pendules à l'heure concernant bien des mythes.
Oui, puis tu sais, tu vois, moi, de par mon expérience, je suis maman de 4 enfants, tu le sais, j'ai allaité mes 4 enfants, j'ai été marraine d'allaitement aussi. Et définitivement, j'allais avoir les seins scrap après mes allaitements. Fait que voilà, je vais peut-être vous en parler de mes seins, mais ils ne sont pas si scrap finalement. J'aurais pas besoin de chirurgie, mais j'ai longtemps pensé qu'il allait être scrap au final, pour vrai. Mais c'est ça, on en reparlera tantôt. Alors, je vous présente Marie-Ève Brouillette. Enchantée, Marie-Ève, je suis contente de te voir parce que j'avais entendu parler de toi, mais on ne s'était pas vu en live là, parce que nous, on est en Zoom présentement. Alors, Marie-Ève, tu es infirmière en périnatalité, consultante en lactation, pardon, IBCLC, comme on peut le nommer. Tu es maman, accompagnante à la naissance, fondatrice de Symbiose, qui est un service en soins infirmiers privé et spécialisé en périnatalité et en allaitement. Et tu es située dans le coin de Bécancour. Comment ça va?
Salut, ça va super bien. Je suis tellement contente d'être avec vous. Comme Cathy disait, j'ai écouté le live et mon Dieu, je me mordais la langue pour ne pas répondre dans les commentaires tout de suite à tous ces fameux mythes-là.
Ah, fait que là, toi, là, t'es la meilleure personne pour nous diriger à travers les mythes au niveau de l'allaitement. Cathy te connaît bien, vous travaillez ensemble souvent en collabo. Dis-moi, là, Marie-Ève, là, on va commencer par quoi exactement?
Bien, en fait, là, je pense qu'avant même d'aborder des mythes en particulier, c'est important peut-être de regarder ça vient de où, là, toutes ces mythes-là, puis ces phrases qui sont répétées. Tu sais, vous l'avez nommé les groupes de maman hein, sur Facebook, les réseaux sociaux, ça, c'est un des facteurs importants, mais même avant que ça arrive, il y en avait aussi des mythes de par le bouche à oreille. Puis souvent, vous allez voir dans mes petites explications tantôt, bien, un mythe, ça découle d'une vérité qui n'a pas été nuancée, qui a été trop encadrée, qui a été trop restreinte. Fait que souvent, bien, c'est un petit peu d'aller juste aborder toutes les nuances qui entourent le mythe pour réussir à le décoder, puis pour réussir aussi comme parent à se faire une opinion qui a finalement un peu plus d'allure, là.
OK. Puis là, bien, écoute, toi, Cathy, t'as entendu quoi exactement?
Moi, il y a beaucoup de choses, mais entre autres, concernant l'alcool. Hein? L'alcool, on va en parler d'ailleurs dans un deuxième segment tantôt qui va être... parce que ça va être divisé en deux, là. On va y aller avec beaucoup de mythes dans la première partie. Dans la deuxième partie, Marie-Ève nous disait qu'il y a tellement de choses à aborder concernant la consommation d'alcool durant l'allaitement. Le cannabis aussi, hein, c'est quand même, là, il y a beaucoup de choses à savoir. Mais moi, ça, c'est vraiment quelque chose là, que j'ai besoin d'une bonne mise à jour, je pense. Aussi, ben, ce que j'ai beaucoup entendu chez les mamans, justement, que j'allais donner soit une formation en allaitement ou qui s'informaient là, au niveau de l'allaitement, souvent, elle me disait, ben moi, j'ai des petits seins, Cathy. Je suis pas sûre que ça se pourrait hein, que je produise peut-être pas assez de lait. Puis là, c'était déjà dans les techniques hein, pour augmenter la montée, ben, pour augmenter la production de lait. Déjà, ils voulaient avoir des trucs pour ça. Hein, fait que fallait souvent que je démystifie là, ce mythe-là. Ça va faire partie des mythes qu'on va discuter avec Marie-Ève, mais clairement, la grosseur des seins, est-ce que ça a un lien avec la production? J'ai bien hâte d'entendre Marie-Ève à ce niveau-là. Fait que les filles, on commence par quoi?
Bien, pourquoi pas commencer par ça?
Par ça, excellent! On t'écoute. Donc, Marie-Ève, mythe numéro un, est-ce que c'est vrai que la taille des seins a une influence sur la production?
C'est vrai et faux. Finalement, ça va être ma réponse tout le long. Préparez-vous. En fait, c'est que quand on parle de production de lait, il faut comprendre qu'il y a vraiment deux facteurs qui sont différents. La capacité à produire du lait, puis la capacité à stocker, à emmagasiner du lait. Donc, une femme qui a des plus petits seins pourrait avoir une capacité à stocker du lait qui serait plus petite, mais qui pourrait très bien compenser par une production de lait plus importante. Fait que ça va avoir un impact sur la fréquence des boires de ce bébé-là, puis la durée des boires. Par contre, on pourrait quand même avoir une femme qui aurait une poitrine plus imposante, qui aurait pas nécessairement une plus grande capacité de stockage. Ça peut être le cas, comme ça peut ne pas l'être. Ça dépend en fait de la quantité de cellules puis de canaux qui sont présents dans ses seins versus du tissu adipeux. Donc, c'est plus ou moins vrai comme mythe.
Ah, bien, Colin, c'est intéressant parce que souvent... Tu sais, les mamans, d'emblée, ils se disent « Ah, ben là, moi, j'ai des petits seins, fait que c'est sûr que je pourrais pas allaiter. » Donc, la capacité à la production du lait, finalement, c'est ce qui est important au bout de toute la ligne. Là.
Exactement. Est-ce que notre bébé arrive à recevoir du lait? Puis, est-ce que je vais allaiter mon enfant à la demande? Donc, c'est sûr et certain qu'il va falloir adapter nos horaires. Si j'essaie de suivre ce que l'infirmière a dit, que c'était aux 3 heures, puis où on entendait aussi, là, tu sais, il faut allaiter 20 minutes par sein, puis tu ne changes pas de sein avant. Puis bref, si j'essaie d'être très stricte dans tout ce qu'on entend, bien là, à ce moment-là, ça va être difficile pour une femme qui a des plus petits seins ou une femme qui a des gros seins, mais avec pas de capacité de stockage. Fait que c'est juste finalement d'adapter puis de suivre le rythme de notre bébé.
OK. Puis continuons avec le mythe numéro 2. L'allaitement, ça détruit les seins, Marie-Ève.
Celui-là, je l'entends tout le temps. Pour vrai, je compte plus le nombre de fois que j'en ai parlé tellement que ça revient. Et souvent, ben, c'est les papas qui vont m'en parler un petit peu sur le côté, dans une rencontre de préparation à l'allaitement. Là, tu sais, ouais, là, Marie, on peut-tu se dire les vraies affaires? Fait que parlons-en. C'est quoi, vous autres, les filles, votre impression sur ce mythe-là?
Ben, écoute, moi, l'ayant vécu 4 fois, bon, nécessairement, je vieillis, hein? Fait que la loi de la gravité fait son effet un jour dans la vie. J'ai vraiment eu, tu sais, en montée laiteuse, mes seins étaient gros, bombés et assez beaux pour mon conjoint, finalement. Hein. C'était comme parfait, la perfection sans chirurgie. Puis...
Ça, c'est le moment où est-ce que je dis au papa, profite-en, regarde-les, mais touche pas.
Non! Il y a juste la douche qui a le droit d'être en contact avec les seins, puis la douche très chaude. Mais en montée laiteuse, tu sais, les seins étaient super. Puis moi, j'ai remarqué vraiment là, une atrophie après avoir allaité. Mais, puis là, écoute, là, j'ai 4 grossesses à mon actif, ça revient toujours. T'sais, un bon 6 mois là, après que j'ai terminé l'allaitement, là, j'ai l'impression que mon galbe, il revient pas comme avant, là, quand j'avais 19-20 ans, mais ça revient. Fait que, tu sais, j'ai plus l'impression que j'ai des petits sacs de thé, là. Finalement, il y a comme... ça se rembourre un peu, là. Fait que, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses?
Ben moi, je trouve que ça fait pas mal du sens. Toi, Cathy?
Ben moi, j'étais un peu dans la même lignée, en fait, qu'Annie, au niveau de la montée de lait. Je pense que c'est ça. C'est beaucoup au niveau de la montée de lait qui fait en sorte là, que, ben c'est sûr que les seins ils grossissent. Hein, et ça peut être quand même assez impressionnant. Moi, je pense que c'est surtout au niveau de la montée de lait, mais je le sais là, qu'il se cache quelque chose en dessous là, qu'on va découvrir. Fait que je ne veux pas m'enfoncer trop loin. Je vais te laisser... je vais te laisser y aller.
Vous voyez... Comment ça me connaître, hein?
Vous voyez pas la face à Marie-Ève en ce moment, mais comme il y a quelque chose qui s'en vient, là.
Ah oui.
Cathy, au fil du temps, c'est ça, elle commence à savoir que j'aime pousser un petit peu plus loin les fameuses connaissances qui entourent l'allaitement. Donc, ben en fait, chapeau à vous deux, mesdames. Vous aviez raison pour ce qui est de l'impact de la montée de lait. Mais je vais quand même me permettre d'ajouter une nuance qui est tellement importante. C'est surtout la grossesse qui va faire en sorte qu'on va avoir un changement au niveau des seins. Donc, indépendamment de notre choix d'allaiter ou non notre enfant, la grossesse, ça, c'est un passage obligatoire pour la maternité, à moins d'aller vers l'adoption qui, là, influencera pas du tout les seins. Ceci étant dit, dans tous les cas, comme tu l'as nommé, Annie, la gravité, l'âge, il y aurait aussi une prise de poids, les changements d'hormones en lien avec une ménopause éventuellement. Tout ça, c'est des choses qui vont influencer sur la forme de nos seins, leur grosseur, le fameux galbe, là, le tonus qu'on recherche. Mais l'allaitement comme tel n'est pas nécessairement le plus important facteur. Donc, avant notre première grossesse à vie, nos seins sont un peu au stade adolescent. Okay? Je vous explique, c'est-à-dire que le bébé vient au monde avec des cellules qui sont très immatures au niveau de ses seins. Puis à la puberté, au niveau de l'adolescence, on a vraiment une première expansion de ces cellules-là. Plusieurs adolescentes vont d'ailleurs sentir là, que ça fait un peu mal les seins. Puis là, quand on traverse notre première grossesse, on revit les mêmes sensations qu'à l'adolescence, cette espèce de sensibilité-là au niveau des seins. Mais ça, c'est la deuxième phase de maturation de nos cellules qui vont se préparer à devenir des cellules allaitantes pour une première fois. Fait que nos cellules vont littéralement prendre de l'expansion. Et dans un second temps, il va y avoir la fameuse montée de lait qui va avoir lieu qu'on choisisse d'allaiter ou pas. Parce que cette montée de lait-là dépend, oui, d'une part d'une stimulation d'un bébé, mais aussi au niveau hormonal de l'expulsion du placenta. Donc, il y a comme plusieurs nuances, finalement. Mais au final, qu'est-ce que les études disent? C'est exactement ce que tu viens de nous rapporter, Annie. C'est-à-dire qu'après avoir sevré notre allaitement, statistiquement parlant, ça a été étudié, et les seins vont reprendre la taille très, très proche de ce qu'elle était avant la grossesse.
Fait que les gars, ce n'est pas l'allaitement. Il ne faut pas que vous fassiez de bébé.
Tout compris.
Là, Annie, tu viens de tout défaire l'affaire, là.
C'est des blagues.
Le cycle de la vie est terminé à cause d'Annie.
Non, mais c'est fou à quel point hein, les pères sont taqués. Même j'ai un de mes bons amis là, qui me disait « Là, toi, tu sais, les tiens, là, puis tout, là, tu sais. » Puis là, j'étais en train d'arrêter d'allaiter, puis après 4 allaitements, là, je ne savais plus où est-ce que ça s'en allait, là, cette histoire-là. Mais là, finalement, je confirme que ton étude a vraiment raison. Vraiment. Oui.
Heureusement aussi, hein?
Oui, ben oui, heureusement, hein, parce que c'est ça.
Hey, merci Marie-Ève pour cette explication très, très, très concrète. Je pense que nos auditrices, ils vont apprécier ces explications-là. Le mythe numéro 3, on y va-tu avec ça? On resterait dans les seins. Hein? Tant qu'à être dans les seins, on va terminer ça avec le mythe numéro 3. Tous les mamelons ne sont pas faits pour allaiter. Donc là, on parle entre autres hein, de mamelons plats, invaginés, des gros mamelons, des très petits mamelons. Donc, hein, des mamelons, on en a pour tous les goûts, toutes les sortes, toutes les grandeurs. Marie-Ève, est-ce que c'est vrai que le type de mamelon peut influencer sa capacité à allaiter finalement?
En fait, quand les gens me posent cette question-là, moi, j'aime bien leur poser une question en retour. Donc, l'utérus de la femme est aussi différent chez toutes les femmes qui existent. À quel moment d'une grossesse est-ce qu'une femme se pose la question à savoir si la forme de son utérus convient à son bébé?
Hé là là!
Ça répond un petit peu à l'autre question. Donc, nos mamelons, indépendamment de la forme, de la taille ou de l'asymétrie qu'ils peuvent avoir, parce que c'est vraiment très commun qu'une femme n'ait pas les mêmes mamelons, bien, c'est ses mamelons à elle, mais de formes différentes, vous m'avez compris, entre la droite puis la gauche. Donc, tous ces mamelons-là sont faits pour allaiter le bébé qui a été conçu par ce même corps-là. Par contre, vous avez compris qu'il va y avoir une nuance, c'est certain. La nuance, ça serait au niveau de la facilité pour le bébé au niveau de l'allaitement. Des fois, on a des combinaisons gagnantes, comme j'aime bien les appeler. Une maman qui a des très petits mamelons, puis un bébé qui a de la difficulté à ouvrir la bouche bien grand. C'est quand même pas trop mal, ça a bien à donner. Si on prend le même bébé, mais qu'on lui fournit une poitrine où est-ce que les mamelons vont être de volume très imposant. Quand je dis imposant, parce que des fois, on ne sait pas trop avec quoi se comparer, bien, un mamelon qui est de la taille environ d'un 25 sous, là, on commence à parler d'un bon calibre de mamelon. Mais on a aussi des mamelons qui vont être très petits, comme par exemple une efface d'un crayon de bois. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un bon range. Et c'est en fait tout le temps possible, tout simplement parfois plus difficile de réussir les mises au sein.
Moi, j'avais une question, Marie-Ève, concernant les mamelons invaginés.
Parce
que tu vois, au niveau de quand j'ai été marraine d'allaitement, j'allais faire des visites à domicile. Il y avait des femmes qui avaient des mamelons invaginés puis qui réussissaient par la force de la succion, finalement, à ce qu'ils soient... mon Dieu, je ne sais pas comment on pourrait appeler le terme, là, mais que le mamelon finissait par sortir. Mais pour celles que le mamelon reste à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça?
Mais en fait, c'est une bonne question, puis c'est pas si commun que ça non plus comme situation. Premièrement, il faut se rappeler que c'est pas le mamelon que le bébé prend en bouche, mais plutôt une bonne partie de l'aréole qui est nécessaire pour l'allaitement. Parce que si vous avez déjà allaité un bébé puis qu'il prend uniquement le mamelon, ben vous allez probablement vous rappeler la fameuse sensation de douleur atroce qui vous a traversé le corps. Donc, les mamelons sont importants, oui, mais plus l'aréole. Fait que si on n'a pas de mamelon qui ressort, ça ne veut pas dire que le bébé n'arrivera pas à s'accrocher au sein. Par contre, c'est plus au niveau de déclencher une succion que ça va être difficile pour le bébé. Mm-hmm. Au niveau des mamelons invaginés, comme tu me parlais, donc c'est un mamelon invaginé, là, pour ceux qui nous écoutent et qui se connaissent peut-être un peu moins, c'est que quand le mamelon, on le regarde, on ne le voit pas. Il rentre vraiment vers l'intérieur du sein. Il y a des types qui vont ressortir un petit peu lorsqu'on les stimule, que ce soit une succion, comme une succion de bébé, ou encore du froid. Il y en a d'autres que quand on les stimule, ils vont rentrer encore plus profondément dans le sein. Ils sont comme, ils n'ont pas un GPS là, intégré, ou du moins, il y a une dysfonction là, quelque part, pas le bon sens. À ce moment-là, bien, il y a des outils qui existent pour faciliter un petit peu la mise au sein puis enclencher la succion du bébé. Mais c'est le même discours que j'avais tout à l'heure. Ce n'est pas impossible du tout, mais ça peut nécessiter peut-être un petit peu plus d'ajustement.
OK, bien, merci de la précision. Écoute, mythe numéro 4 maintenant. Hein? Maman mange du brocoli, bébé ne dormira pas de la nuit. Nos grands-mères, ils nous disent tout ça. Du chou-fleur.
Ça ou je peux pas manger la batch de sauce à spaghetti que ma belle-mère me fait parce qu'elle a mis trop d'épices dedans puis mon bébé va avoir mal au ventre.
Oui, ou tout simplement juste l'oignon. Hein? Moi, j'ai vu ça passer, l'oignon. Hein? Il y a des oignons dans la sauce à spag.
C'est vrai. Ou la cabane à sucre. Hein? Quand c'est la période des sucres, là, souvent, je vais avoir des appels de maman. Je peux-tu aller à la cabane à sucre, mon bébé? Va-tu avoir trop mal au ventre si je mange des bines puis tout ça? Donc, on pourrait résumer là, ce mythe-là par est-ce que ce que je mange influence ce qui se retrouve dans mon lait au niveau de la digestion de mon bébé? Hein? On pourrait résumer ça comme ça. Bien, ça, en fait, c'est vraiment un mythe. Il n'y a pas de nuance, là, c'est un mythe. Donc, ça a été étudié, il y a plusieurs aliments qui ont été étudiés, puis il n'y en a aucun qui ont été démontrés comme ayant un incidence sur la digestion de l'enfant. Là, on parle d'aliments, on ne parle pas de médicaments, alcool, drogue et tout ça. On parle vraiment de brocoli, chou-fleur et compagnie. Par contre, pour travailler depuis plusieurs années avec plusieurs mamans, moi, j'aime toujours dire que ça reste maman l'experte de son bébé. Donc, si la maman, elle, quand elle en mange du brocoli ou des oignons, elle remarque là, la fameuse différence dans le comportement de son bébé, bien, souvent, moi, j'aime mieux me fier à cet instinct maternel-là puis dire, bien, OK, on va limiter la part en ces aliments-là que de dire, bien, non, c'est pas vrai, les études, ils disent que tu mens. Hein? Fait qu'il faut toujours se fier un petit peu à notre intuition puis à notre feeling au final. C'est ça qui est le plus important. Mais règle générale, on n'a pas vraiment de limitation au niveau de l'alimentation là, quand on est une femme allaitante. Puis si vous avez le goût d'utiliser ce mythe-là pour ne pas manger la sauce à spaghetti de votre belle-mère, bien, pourquoi pas?
Hey, mais c'est un bon truc!
Une bonne nuance!
Oui! Cathy, vas-y donc avec le mythe numéro 5!
Oui, le mythe numéro 5, on en parle-tu là, la cigarette, hein, le tabac durant l'allaitement? Est-ce que c'est vrai quand que la cigarette peut influencer, en fait, peut avoir un impact là, sur notre bébé?
C'est vrai. Donc, on va partir par la base, la cigarette va avoir un impact sur la grossesse. Donc, déjà là, quand on est une femme qui fume la cigarette enceinte, on a plus de risques d'avoir un bébé de petit poids, donc plus de difficultés avec l'allaitement. Puis, on a plus de risques aussi d'avoir un retard de croissance, donc de déclencher un accouchement prématuré. Encore là, avec un peu plus de difficultés au niveau de l'allaitement. Quand on a finalement accouché, puis qu'on veut continuer de fumer puis allaiter, ça reste quand même possible de le faire, mais évidemment qu'on essaye de mettre en place le maximum d'astuces puis de modifications de l'environnement pour limiter le contact du bébé avec la fumée secondaire, donc que maman ne fume pas à côté de son bébé ou qu'elle ne fume pas en allaitant, évidemment. On parle aussi de la fumée tertiaire, des vêtements. Donc, ce qu'on recommande, c'est maman ou papa, sortez dehors, mettez-vous un chandail à capuchon ou quelque chose comme ça, puis retirez-le quand vous entrez dans la maison pour reprendre votre bébé dans vos bras pour limiter aussi le contact de la fumée tertiaire. Malgré tout ça, on peut mettre d'autres choses en pratique, là, limiter évidemment le nombre de cigarettes au minimum. On pourrait aussi envisager des méthodes pour arrêter le tabac. Là, les patchs puis tout ça, c'est compatible avec l'allaitement. Mais si tout ça reste impossible, puis que la maman, ça représente un défi trop important d'arrêter de fumer, mais qu'elle veut allaiter cette maman-là, bien, la recommandation officielle, c'est de poursuivre l'allaitement. Donc, les bienfaits là, de l'allaitement sont supérieurs aux méfaits de la fumée de cigarette sur le bébé.
OK. Et quels sont les impacts, justement, possibles sur le bébé, là, ce qu'on en sait présentement?
Présentement, on a des études qui ont démontré, premièrement, que la cigarette va avoir un incidence sur la production de lait de maman à la baisse, donc un plus grand risque d'insuffisance au niveau du gain de poids du bébé. Ça peut aussi affecter au niveau de son comportement. L'enfant peut être plus irritable, plus à risque aussi d'infection des voies respiratoires supérieures, entre autres. Donc, là, ben, plus que bébé est malade, plus que l'allaitement va aussi... être difficile. On n'a pas non plus des données là, à perte de vue sur qu'est-ce qui est transféré dans le lait maternel, parce que vous aurez compris que la composition chimique d'une cigarette, je ne sais pas si j'ai assez de papier dans ma maison pour les imprimer tellement qu'il y en a dedans, puis ça va varier aussi d'une compagnie à une autre. Donc là, d'aller faire des études sur tout ça, c'est difficile. Chose certaine, il y a beaucoup d'éléments qui vont transférer au niveau du lait maternel. Le principal élément là, qui serait la nicotine, ce qui rend un peu addict, là, la dépendance, mais à ce moment-là, ça, oui, le bébé va l'avoir. Donc, c'est pour ça que c'est pas l'idéal de fumer si on allaite, évidemment, mais en cas de doute, vaut mieux allaiter que pas allaiter.
OK. Puis maintenant, un mythe que j'aime beaucoup, 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 puis de par mon expérience à moi, bébé allaité, papa pas impliqué. Mon premier a 8 ans, mon dernier a 2 ans et demi, fait que ça fait 1 an et demi là, que je ne l'allaite plus. C'est comme si ces enfants-là n'avaient pas eu de père impliqué finalement.
Oui, quel mythe quand on y pense. Premièrement, là, qui s'imagine que la seule chose qu'on a à faire avec un bébé, c'est l'allaiter?
Le nourrir, oui, tout à fait. Exact.
Déjà là, il faut se poser la question. Quels sont les soins que j'ai à prodiguer à un nouveau-né? Il y en a plusieurs, là. Donc, déjà là, papa a la chance de s'impliquer sur beaucoup, beaucoup d'éléments. Mais moi, j'aime, en fait, aborder cette question-là peut-être sous un angle qu'on n'entend pas parler beaucoup. C'est-à-dire que l'allaitement, là, c'est un choix qui revient à maman. Donc, c'est elle qui va allaiter. C'est ses seins à elle. Donc, oui, c'est sa décision à elle. Mais est-ce que papa a son mot à dire? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres?
Ben moi, je pense que c'est une question de communication, n'est-ce pas, Cathy?
C'est ce que j'allais dire, Annie, c'est ce que j'allais dire. Écoute, tu me prends au dépourvu avec cette question.
C'est touché, hein?
C'est touché, oui, oui. Je pense que je préfère te laisser aller.
Elle veut pas se mouiller.
Non!
Ben, en fait, même si c'est la décision de maman, oui, il faut communiquer dans le couple, puis oui, il faut se consulter. On peut pas forcer maman à allaiter, ça c'est certain. Par contre, si une maman veut vraiment allaiter, mais son conjoint, il a le choix de dire « je vais la soutenir » ou pas. Il n'y a pas d'études là, qui ont été faites vraiment spécifiquement là, sur cette question-là, mais moi, pour avoir côtoyé là, plus de 500 familles là, dans les dernières années quand même, là, je peux vous assurer hors de tout doute que si papa ou le conjoint, partenaire de vie, là, nommez-le comme vous voulez, si cette personne-là n'est pas favorable à l'allaitement n'aura pas lieu très longtemps. À 3 heures du matin, c'est notre conjoint qui est avec nous autres pour nous mettre la main sur l'épaule puis nous dire que ça va aller mieux demain. C'est aussi lui ou elle qui va nous apporter un verre d'eau puis une collation quand on est à bout. C'est aussi lui ou elle qui va nous dire de ne pas lâcher quand on a le goût de lâcher, qui va prendre bébé le temps qu'on puisse faire un petit repos. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour être un bon partenaire qui soutient l'allaitement de son bébé. Et là, ça amène à un autre point qui est très important. Comme papa, il faut se poser la question suivante. Est-ce que mon désir ou mon besoin à moi de m'impliquer dans nourrir l'action de nourrir mon bébé est plus important que les bienfaits que procure l'allaitement sur le bien-être de mon bébé et sa santé tout au long de sa vie? Donc ça, c'est une très bonne piste de réflexion pour de nombreux parents.
Tellement, on invite les mamans à faire écouter cet épisode à tous les papas, pour vrai. La façon que c'est dit, je pense que hein, en communiquant, on peut arriver à nommer nos besoins, hein, Annie, à nommer notre besoin, puis d'aller explorer c'est quoi qui se cache sous le besoin de ce papa-là de juste nourrir son enfant. Puis c'est la société aussi hein, qui véhicule ça. Hein? Ben là, ah non, ben moi, mon conjoint, il veut s'impliquer. Fait que on a choisi ensemble que j'allais qu'on allait donner de la préparation commerciale pour nourrissons. Parce que lui, il veut s'impliquer. Fait que là, ah, oh, ben là, oui, un papa qui veut s'impliquer. Hey, pourquoi que la mère refuserait ça? Hein?
Ben, t'as entièrement raison. C'est beaucoup une question de société. Les papas, ils ont une grosse pression maintenant aussi hein, par rapport à l'implication. Avant, ils n'avaient même pas besoin de se casser la tête avec l'accouchement. Puis là, à cette heure, on leur demande d'être formateurs bon apaché, agréés, puis de gérer point de pression comme des champions, finalement, là. Mais c'est aussi vrai pour l'allaitement. Hein. Tu sais, là, il faut qu'ils s'informent sur ça, là, la montée de lait puis la gestion du mamelon de leur conjointe. Ils n'avaient peut-être pas prévu ça. Donc, oui, ils ont une pression importante. Fait que je peux comprendre aussi des fois leur hésitation. Mais il faut aussi dire que quand un papa là, comme ça est hésitant, c'est en rencontre prénatale que ça va être important d'aborder la question parce que souvent, ce qui les fait hésiter, c'est des mythes. C'est toutes les mythes, on va peut-être en parler un peu plus tard, mais tu sais, je peux-tu en donner un biberon ou pas? Je peux-tu faire garder mon bébé ou pas? Ça va être quoi l'impact de l'allaitement sur mon quotidien comme parent? Puis ça, bien, on entend tellement des histoires d'horreur puis des mythes que ça rend la prise de décision pas nécessairement très éclairée au final.
C'est là que la préparation en prénatal est essentielle pour ça. Hein? C'est là notre défi au quotidien à Marie-Ève puis à moi de venir préparer ces parents-là. En fait, on se fait un plaisir de les préparer, mais c'est notre mission, hein, si je peux mieux m'exprimer. C'est vraiment notre mission de venir leur donner l'information, les bonnes données pour qu'ils puissent faire leur choix après ça pour leur famille. Fait que, ça me parle beaucoup ce que tu nous dis. Je suis certaine que les gens qui nous écoutent, là, ça va les éclairer drôlement. Puis parlons-en de justement, tu as effleuré le sujet. Prochain mythe, est-ce que on peut quand même faire garder notre bébé s'il est allaité? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que notre bébé a besoin d'être avec nous 24 heures sur 24 parce qu'on allaite?
Bien là, je vais m'adresser à Annie, ma partenaire de maman 4 fois, parce qu'on a ça en commun, Annie et moi. Donc, dis-moi, Annie, si je comprends bien, toi, ça fait 8 ans que tu n'as pas fait garder tes bébés puisque tu as allaité.
Exactement. Oui, vraiment. Non, moi, j'ai jamais fait garder mes bébés. Écoute, je serais pas ici en ce moment, là. Je pense que quelque part dans un hôpital cloisonné avec beaucoup de médication. J'ai fait garder mes bébés. Ça a été plus difficile au début parce que moi, avec mes valeurs à moi, avec mes convictions à moi, c'était important et nécessaire que je reste avec mon bébé. Fait que j'avais de la difficulté à léguer un petit peu. Tu sais, je suis une maman un peu trop impliquée, là. Fait que bon, à avoir de la difficulté à prendre soin de moi, mais nécessairement que la personne en qui j'avais le plus confiance pour donner un premier biberon de mon lait à moi, ben écoute, on y allait, là. On a besoin de prendre soin de notre couple un jour dans notre vie. On a besoin de faire d'autres choses, d'aller prendre un café avec une amie. Fait que, tu sais, j'ai fait garder mes enfants. Oui. Oui.
Je suis contente de t'entendre parce que c'est exactement ce genre d'histoire-là qu'il faut entendre plus souvent maintenant.
Oui, donc, oui, excuse-moi, Marie-Ève, mais il y en a quand même beaucoup aussi qui reprennent le travail assez tôt. Puis qui réussissent quand même là, à poursuivre l'allaitement. Fait que, tu sais, je pense que c'est important d'en parler que c'est normal. Tu sais, ça peut être possible là, de continuer ses passions, de continuer son travail, de continuer à sortir un petit peu, puis de pouvoir continuer, poursuivre, de donner les bienfaits de l'allaitement à notre bébé. Là.
Exactement. Bien, en fait, on pourrait résumer ça parce que ce qui est important, c'est pas de faire garder ou pas, de retourner travailler ou pas. Ce qui est important, c'est d'être bien dans notre décision de faire garder ou pas bébé, que notre partenaire soit bien aussi dans cette prise de décision-là parce que ça, c'est quelque chose qui se prend en décision de couple. Et une fois qu'on a pris notre décision, bien là, il y a plusieurs éléments qu'il va falloir considérer pour un petit peu adapter. Donc là, je veux faire garder. Parfait, mais je fais garder combien de temps? Je suis à quelle distance de mon bébé? Si je fais garder, je vais-tu passer mon temps finalement à penser à mon bébé? Va-t-il falloir que je tire mon lait ou pas quand je vais être partie? Si oui, comment je vais faire puis comment ça va être adapté? Pour rendre l'expérience agréable, il faut prévoir un petit peu. T'sais, si c'est un mariage puis que vous y allez pas de tire-lait, ça se peut que la robe vous déchire sur le dos à la fin de la journée parce que vous avez trop engorgé, là. Fait qu'il faut prévoir. Puis si t'as pas prévu puis que t'as juste accès à une toilette chimique dans un festival pour tirer ton lait, ça se pourrait que tu trouves l'expérience désagréable. Si au contraire, ben c'est une première sortie avec des amis puis que t'es juste parti un petit deux heures, t'as pas besoin de tirer ton lait, ton bébé va t'attendre puis tu reviens à la maison puis t'allaites, t'as passé une belle soirée, mais là, vous comprendrez que c'est 2 scénarios complètement différents. L'autre chose, c'est qui est-ce qui va rester avec cet enfant-là? Est-ce que ma première sortie, je la fais en couple ou je la fais pas en couple? Donc, si papa s'occupe du bébé, théoriquement, il y a des bonnes bases là, en gestion de notre bébé. Si c'est pas le cas, je vous inviterai à remédier à la situation au plus vite. Mais si c'est le cas, bien, à ce moment-là, je risque d'être vraiment plus à l'aise de faire garder. si c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de mon bébé, est-ce que cette personne-là est habile pour donner un biberon? Est-ce qu'elle est habilitée à le faire? Est-ce qu'elle maîtrise aussi toute la gestion du lait maternel décongelé si c'est mon choix d'offrir du lait maternel? Ou le contraire est aussi vrai, si je décide d'offrir de la formule à mon bébé, est-ce que la personne elle sait comment fonctionne la poudre, la machine? Bref, vous me voyez venir. C'est la première fois que mon bébé aussi va avoir de la formule. C'est peut-être pas la meilleure des idées de faire ça quand on est parti 8 heures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, il faut réfléchir, il faut adapter pour rendre le tout le plus agréable possible. Puis ce qu'il faut se rappeler beaucoup, je pense, c'est qu'on vante beaucoup les bienfaits de l'allaitement sur le bien-être du bébé puis son bonheur, puis je serais bien mal placée pour dire le contraire. Par contre, chose certaine, c'est qu'une maman malheureuse ne va pas nécessairement avoir un bébé heureux. Donc, il faut prendre le temps d'avoir ces discussions-là, de trouver les solutions qui vont convenir à notre dynamique maman, bébé, papa, frère, sœur. Bref, il y a plein de solutions qui existent. Facebook, ce n'est pas nécessairement notre meilleur ami pour trouver les réponses. Peut-être qu'une professionnelle en allaitement pourrait être une bonne piste de solution. Je dis ça comme ça, là.
On t'aime, Marie-Ève!
Vraiment, puis tu vois, je suis justement en train de me dire, il faut faire un autre podcast avec Marie-Ève sur les jugements hein, des mamans qui sont allaitantes ou les mamans qui ne sont pas allaitantes. C'est un peu la galère hein, en ce moment. C'est quasiment comme les trucs du vaccin. Tu es conspirationniste, tu te fais injecter une puce si tu te fais vacciner. On en est quasiment là. Fait que je pense que si tu acceptes, Marie-Ève, on pourrait faire un autre podcast sur les jugements au niveau de l'allaitement. Hein. Moi, j'ai allaité mes bébés, les 4, puis ça me fait ni chaud ni froid une maman qui donne un biberon de préparation avec amour. Moi, je me dis, c'est la plus belle chose qui peut arriver à ton enfant. C'est la plus belle chose aussi qui peut arriver à ton enfant si tu l'allaites. Ça dépend comment c'est fait. Fait que voilà.
On sort notre agenda, puis on regarde ça.
Ouais. Ça va me faire tellement plaisir parce que ça aussi, tu sais, c'est important d'en parler de cette fameuse pression-là. Puis, tu sais, j'aimerais ça que dans cet épisode-là, qu'on parle aussi de la pression que les professionnels mettent.
Oui, totalement, totalement. Oui. Parce que tu te sens quasiment comme une mauvaise mère hein, si tu fais le choix de ne pas allaiter. Puis, ça culpabilise énormément les mamans. Puis, on a-tu besoin de ça dans notre vie de parent, de culpabiliser sur ces choses-là? Je ne crois pas, non.
Oui, puis toi, tu as ton chapeau de professionnel aussi. Tu côtoies d'autres professionnels de la santé aussi, des professionnels qui accompagnent des femmes dans leur allaitement. Fait que oui, il faut définitivement parler de ça. Oui, tout à fait.
Je suis d'accord.
Écoutez, avant de terminer le dernier mythe, avant d'entamer un deuxième segment de podcast au niveau du cannabis et de l'alcool, hein, au niveau de l'allaitement, dernier mythe, le bébé allaité ne trouve jamais les bras de Morphée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un bébé qui ne dort jamais.
Exactement ça. Hein, les fameux bras de Morphée, on dit que c'est de trouver le sommeil. Combien de fois vous avez entendu, mesdames, qu'un bébé allaité, ça dort pas?
Ah non, c'est ça. Ben, dès qu'on intègre un biberon, normalement, ça fait 6 nuits. Là. C'est pas mal ça que... Non, c'est pas ça? Oui? Non?
Peut-être.
Peut-être.
Puis, écoute, c'est quand même assez particulier que les miens ont quand même fait leur nuit à partir de 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois. Puis, écoute, ils étaient tous allaités.
Annie, c'est pas légal de dire ça. Je m'excuse, mesdames. Hein. C'est correct si vos bébés dorment pas.
Ben non,
c'est pas vrai. C'est ben pas oui. vrai. Toutes les normalités existent. Justement, il faut arrêter de se mettre des limites.
Je voulais juste faire le parallèle entre le fait que j'ai allaité, mais j'ai été mauditement chanceuse. Il faut que je le dise. Là. J'ai été vraiment, vraiment, vraiment chanceuse avec mes bébés. C'est ça. Fait que j'ai rien à dire de plus pour ma défense.
OK, bien là, je vais mettre mon chapeau de professionnel puis je vais vous parler des vraies données. Là. Est-ce que l'allaitement, ça influence le sommeil du bébé? La réponse, c'est oui, ça l'influence. Mais il faut comprendre pourquoi ça l'influence. C'est surtout ça. Donc, le lait maternel, on le sait, c'est l'aliment là, le plus facile à digérer pour les bébés. C'est un aliment qui va se digérer en moyenne après 2 heures. Le bébé a digéré son lait. Donc, c'est certain qu'après 2 heures, la faim va peut-être se faire sentir. Je dis 2 heures, mais vous aurez compris que plus l'enfant vieillit, plus il est capable d'attendre longtemps aussi avant d'avoir un apport en lait. Mais là, pourquoi j'ai besoin d'avoir un apport comme ça en lait régulier? Bien, c'est parce qu'il y a un organe qui est en pleine croissance, qui va en fait croître de façon assez phénoménale, l'organe qui s'appelle le cerveau. Quand même non négligeable dans les besoins du bébé. Donc, l'allaitement maternel de nuit, ça permet un apport en sucre, l'élément le plus important pour le développement du cerveau, un apport qui va être constant, qui va être équilibré, puis disponible. Donc, on vante les bienfaits du lait maternel. On vante, entre autres, que les enfants allaités ont des QI plus importants. C'est des choses qui sont étudiées. Oui, il y a la composition du lait, mais il y a aussi la mécanique derrière l'allaitement. Donc, les réveils plus fréquents. Oui, c'est vrai, les bébés allaités vont avoir tendance à faire des réveils plus fréquents. Par contre, nuance. Dans le lait maternel, il y a aussi des éléments qui favorisent le repos du bébé, un sommeil plus récupérateur chez ces bébés-là. Donc, ils vont peut-être dormir un petit peu moins, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être en manque de sommeil. Pour ce qui est de la maman, est-ce qu'elle va être en manque de sommeil? On a tendance à penser que ce serait vrai de le dire parce qu'on se dit si elle se réveille plus souvent, bien, elle va être plus fatiguée. Mais en fait, quand elle va se rendormir, ça a été démontré et étudié aussi que la maman va avoir de la libération d'hormones, entre autres le l'ocytocine, pour la libération du lait, qui va avoir un impact sur la qualité de son sommeil, sa capacité à se rendormir rapidement, mais aussi à récupérer avec un sommeil moins profond. Donc, des fois, on se dit « Comment ça se fait que je ne suis pas plus fatiguée que ça? » Il me semble qu'avant d'avoir des enfants, j'étais plus... j'étais plus fatiguée, puis j'aurais jamais été capable de m'imaginer être aussi résistante à la fatigue. Mais en fait, on peut dire merci aux belles hormones de l'allaitement. Donc, tout ça mis ensemble, on pourrait dire que c'est vrai que l'allaitement influence à la baisse le sommeil du bébé, mais j'aime pas dire que ça l'influence à la baisse ou négativement parce qu'en fait, c'est positif et c'est très aussi différent d'un enfant à l'autre, puis ça change beaucoup dans le temps. Donc, beaucoup de nuances.
Puis Marie-Ève, tu te souviens qu'on a fait une formation en allaitement ensemble avec Madame Ingrid Bayot. Puis moi, j'ai fait une formation complémentaire en accompagnement au sommeil avec elle. Puis ce qu'elle disait aussi, c'est que les mamans qui étaient allaitantes, ce qui arrivait, c'est qu'elles ressentaient plus les signaux de fatigue lorsqu'elles allaitaient leur bébé. Donc, elles s'écoutaient davantage. Donc, c'est souvent des mamans, j'imagine, qui écoutaient justement plus leurs signaux, qu'elles prenaient le temps un petit peu plus de se reposer puis que leur sommeil était plus récupérateur. Donc, vu que cette femme-là ressent davantage ses signaux, bien, elle se repose peut-être davantage. Je ne sais pas si ça fait du sens là, pour toi, mais c'est ce qui m'avait été aussi dit dans cette formation-là.
Oui, c'est vrai. Ça va découler, entre autres, de la relation de l'allaitement, mais aussi de la proximité avec l'enfant. Souvent, les bébés allaités vont faire le partage de la chambre beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, on le sait que les mamans qui font du cododo vont allaiter aussi de façon significativement importante le plus longtemps dans le temps. Puis, il y a aussi un autre phénomène. Tu sais, là, tu parlais de la sensibilité aux signaux de sommeil, mais on a aussi un phénomène où est-ce que maman va avoir tendance à se réveiller en même temps ou juste avant son bébé. Ça, c'est vraiment une communication hormonale qui s'effectue pendant le sommeil quand il y a une proximité, évidemment. Ça a comme bien fait un peu d'améliorer le sommeil de toute la famille. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un bébé qui s'époumonne pendant qu'on fait chauffer un biberon, que ce soit du lait maternel ou de la formule dans le biberon, là, mais on n'a pas un bébé qui patiente pour sa mise au sein, fait qu'on évite de perturber le sommeil de tout le reste de la maisonnerie. On évite de perturber beaucoup notre sommeil à nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement à faire un gros réveil, de se lever du lit, puis de faire plein de tâches, puis de se mettre le cerveau à on pour pas non plus faire d'erreurs dans la préparation de tout ça. Donc, ça améliore la qualité du sommeil du parent qui allaite, mais aussi de la maisonnée en général.
Alors, c'est ce qui met fin au premier segment des mythes de l'allaitement. On se retrouvera la semaine prochaine, donc mardi prochain, pour aborder le sujet du cannabis, de l'alcool hein, avec l'allaitement. Est-ce qu'ils ont des contre-indications? Alors, Marie-Ève va pouvoir démystifier ça avec nous. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Internet, entre autres, par rapport au Dr Newman et la Ligue la laitée. Alors, on va voir tout ça ensemble mardi prochain. C'est un rendez-vous. Bonne fin de journée. Bye!
Un gros merci d'avoir été avec nous. Si t'en as l'envie, rejoins notre belle communauté Facebook avec le groupe Podcast Un Expresso, s'il vous plaît. Je remercie également C'est Exact, qui est fièrement commanditaire de votre podcast familial. Avec C'est Exact, réalisez tous vos projets web, sites, référencements, boutiques en ligne et plus encore. Pour plus d'informations, visitez citexact.ca.